Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors au Venezuela, ça continue à barder.
Mais bien sûr.
Et on se rapproche pas, je crois, d'une solution politique, on s'entend? Et en Maduro, fait... Maduro, le président en place, a évoqué ouvertement l'idée d'une intervention militaire américaine.
Oui, mais ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Ça, ouais. Ça fait des mois qu'il en parle. Ce qui est nouveau dans le dossier, c'est deux, trois choses. D'abord, Juan Guaido... donc celui qui s'est auto-déclaré, auto-proclamé président du Venezuela, a dit qu'il avait eu des entretiens secrets avec des membres des forces de sécurité et des membres des forces armées. Ça, c'est très, très important parce qu'on sait qu'au Venezuela, si ça doit changer, ça passe par l'armée et les forces de sécurité. Deuxième élément d'information qui est très important aussi, c'est qu'il semble que Maduro ait dû faire appel à ses forces spéciales pour mater les manifestations qu'il y a au Venezuela en ce moment.
Les forces spéciales, ça, c'est les commandos, là. C'est ceux qui sont supposés intervenir, mettons, dans des situations de prise d'otages ou dans des situations où des terroristes sont impliqués.
C'est encore pire que ça. C'est le dernier. C'est les forces les plus fidèles au régime. C'est souvent des soldats aussi qui ont eu un entraînement spécial. Si tu veux le résumer, on peut dire que c'est des gens qui tueraient leur mère sans qu'il n'y ait des yeux, là.
Ouais.
C'est exagéré, peu, mais tu vois le genre d'entraînement que ces gens ont.
Mais l'interprétation que tu donnes à ce geste-là, c'est que si les obligé de recourir aux forces spéciales pour mater des manifestants.
C'est que l'armée et la police ne le font plus.
Voilà.
Ne font que
ça,
vraiment...
ça montre une fragilité.
Exactement. Et ça, c'est très important. Troisième élément, on s'est mis à arrêter des journalistes étrangers. Il y a deux journalistes français au moins qui ont été arrêtés parce qu'ils filmaient le palais présidentiel.
Miraflores.
Oui, il se serait trouvé dans un périmètre de sécurité, etc. Mais ça paraît assez bizarre. Et il y a trois journalistes de l'agence espagnole EFE qui aussi ont été arrêtés.
Donc, ça, c'est très rare. Moi, j'ai été en Amérique latine. Là, j'ai couvert l'Amérique latine comme correspondant. Là.
Oui.
Et de façon générale, les régimes ne touchent pas aux journalistes étrangers à cause de justement de la très mauvaise publicité que ça leur cause.
Ben voilà.
Et donc, à quelque part, c'est un geste de désespoir de la part du régime que d'arrêter des journalistes étrangers.
Alors, si tu additionnes ça avec les forces spéciales qui sont en jeu, plus le fait que le nouveau
Guaido
dit, ouais. Enfin, on ne sait plus comment qu'il a parlé à des forces, qu'il y a vraiment des entretiens avec les forces de sécurité et les forces armées. Ça sent vraiment, ça commence à être difficile comme situation, je pense, pour Maduro en ce moment. Il y a vraiment des pressions très fortes. Tiens, on peut rajouter en plus que le Parlement européen vient de décider de reconnaître Guaido comme étant le président du Venezuela.
Oh, ça c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, des États comme l'État français, l'État allemand, si je ne m'abuse, ne l'ont pas reconnu encore.
Ils ne le font toujours pas.
Ils demandent une élection.
C'est ça. Et ils demandent que cette élection soit décidée d'ici dimanche. Mais donc, le Parlement européen appelle les États européens à aussi reconnaître Guaido et donc à ne pas reconnaître Maduro. Donc, la situation continue à s'envenimer et, si tu veux, ça se précise de plus en plus. On voit de plus en plus que c'est l'armée qui tient véritablement la solution entre ses mains. Est-ce que l'armée va rester fidèle à Maduro?
Le risque,
c'est la question que tout le monde se pose.
Le risque, évidemment, on l'a déjà vu dans d'autres pays, c'est de se retrouver dans une situation où l'armée, une partie de l'armée appuie...
Oui.
Un président, l'autre partie appuie l'autre président. Et là, tu te retrouves non seulement avec une guerre civile, mais tu te retrouves avec un conflit armé interne.
Absolument. C'est grave. Sauf que, tu sais, la population va tellement mal au Venezuela, les gens ont tellement faim, ça va tellement mal. Écoute, l'armée, c'est aussi des gens du peuple.
Ah ben,
ils ont des familles, ils voient bien ce qui se passe. Moi, je
ne
pense pas qu'il y ait une grosse partie de l'armée qui soit réellement derrière Maduro. Des commandants, certains commandants qui font beaucoup d'argent.
Mais
certains hauts gradés qui font beaucoup d'argent.
Ouais.
Oui, mais certainement pas la majorité.
L'infanterie, là. Ouais. OK, ben ça, c'est à voir. C'est à voir. OK, parle-nous un petit peu de l'Iran.
Oui.
Ah, parce que c'est important, l'Iran, là. Qu'est-ce que tu veux en relation avec Israël, en relation, évidemment, avec...
les États-Unis, avec le pétrole.
Ben oui.
Alors, donc, l'Europe a décidé, finalement, serait parvenue à mettre en place le mécanisme dont ils ont parlé depuis des mois, qui permettrait aux Européens d'acheter du gaz et du pétrole iranien en échange de biens de consommation européens. Donc, ça contournerait l'embargo que veulent imposer les Américains. Et comme on le sait, ni le Canada ni les Européens ne veulent faire partie de cet embargo vis-à-vis de l'Iran parce qu'ils disent tous, écoutez, l'Iran ne fabrique pas de bombes nucléaires en ce moment, on n'a pas de raison d'avoir un embargo commercial contre eux, donc nous on veut continuer à faire du commerce avec eux.
Mais en quoi ça contourne l'embargo, ça, en quoi ça contourne les éventuelles sanctions américaines? Parce que, est-ce qu'on parle de troc ici?
Non, c'est pas du troc, c'est en fait deux organisations, une basée en France, l'autre basée en Allemagne, qui régirait tout le commerce qu'il y a avec l'Iran. Le problème, c'est que les compagnies et les banques qui font du commerce directement avec l'Iran risquent de se retrouver dans la situation de Huawei, donc de Madame Meng, tu te souviens, c'est-à-dire qu'elle risque d'être accusée par les États-Unis de faire du commerce avec l'Iran et donc de ne plus pouvoir faire de commerce avec les États-Unis.
Ou même d'être arrêtée éventuellement.
C'est ce que je disais, je parlais de Madame Meng. Voilà. Donc c'est pour ça que les Européens ont mis en place un mécanisme qui va permettre de faire du commerce avec l'Iran sans que ces compagnies soient nécessairement arrêtées, mais
donc, ils passeraient par une espèce d'agent intermédiaire, c'est ça?
Exactement. Mais disent les diplomates, on n'aura pas beaucoup de commerce avec ça. Hein. C'est vraiment plus symbolique qu'autre chose. Et ça va mal en Iran. On n'en a pas parlé cette semaine, on n'a pas eu le temps, mais le président iranien, Hassan Rouhani, a dit que l'Iran était en train de vivre sa pire crise économique depuis 40 ans, à cause justement des mesures d'embargo décidées par les Américains, dit-il. Il exagère. Le problème, c'est que le régime est incompétent et corrompu. Et effectivement, ce régime n'est pas aimé par sa population. Donc, il a de très forts problèmes. Et si tu veux, c'est intéressant qu'il en parle en ce moment.
Ben, en tout cas, ça vient... Moi, on s'en parlait à micro fermé. Quand les agences de renseignement américaines disent l'Iran n'est pas en train de développer l'arme nucléaire, moi, je fais un lien avec la situation économique désastreuse en Iran. Ils n'ont pas l'argent présentement. L'État iranien n'a pas les ressources pour investir là-dedans. Là. Leur situation financière est à ce point difficile.
On disait la même chose de la Corée du Nord.
Ça, c'est vrai. Tu as raison.
Donc, ils pourraient quand même le faire. Il y a même des gens qui diraient, justement, si ça va si mal pour la population, c'est parce qu'ils détournent l'argent ailleurs.
Mais bon. Mais il y a eu des contestations, quand même, populaires assez importantes en Iran ces dernières années.
Et on en parlait hors micro. Tu sais, si les Américains n'étaient pas entrés en Irak, ça allait tellement mal en Iran qu'il y aurait pu y avoir une révolution en Iran.
Démocratique.
Une révolution démocratique. Mais parce qu'ils sont rentrés, donc, en Irak, les Iraniens ont dit, ah, voilà les méchants impérialistes américains qui sont dans notre région, et le régime s'est ressaisi avec ça. Donc, on va voir ce qui va arriver encore une fois. Peut-être que Trump, avec ses velléités d'attaquer le régime iranien, en fait, rend un très bon service à ce régime.
Oui, parce que ça permet aux purs et durs, dans le fond, de justifier leur existence.
Leur existence, et aussi tous les sacrifices qu'on demande à la population.
Loïc Tassion, on va s'arrêter là-dessus. Je te remercie beaucoup.
C'est un plaisir.
Parce que je veux me garder un petit peu de temps pour cette dernière nouvelle dont on va traiter après la pause. C'est une bonne nouvelle, OK? Vous savez, une fois de temps en temps, il faut parler du positif. Là. Et là, c'est du positif. Vous vous rappelez du temps où on disait le Québec a le taux de suicide le plus élevé en Occident? Ben là, on apprend qu'on a atteint le plus bas taux de suicide en 20 ans au Québec. Et on va essayer de comprendre quelles sont les raisons derrière cette amélioration, cette progression, tout de suite après la pause. Les libéraux.